Chapitre 34. Violette. Le lendemain de la venue de Sébastiane, Johnny rassembla les enfants et leur annonça qu'ils partaient se promener.
« Où ça ?» demanda Amélia.
« On va voir d'autres personnes, » répondit la vieille femme. « Certains de ces gens viennent du même hôtel que vous, sauf qu'ils se sont installés plus loin que nous, des hommes du Capitole. Alors on va voir comment ils vont. »
Ils eurent au départ l'impression de partir en sortie scolaire, avec Johnny comme accompagnatrice. Elle les mena vers la station de métro Smithsonian, sous l'escorte de 4 hommes armés. Ces derniers les accompagnèrent à l'intérieur pour s'assurer qu'ils ne croisent personne de mal intentionné.
« Il est de plus en plus difficile de se déplacer en surface, » expliqua-t-elle. « Alors on va prendre le métro, mais d'une toute nouvelle façon, sans rame. »
Les eaux de crue commençaient à se retirer, mais ici, les voies étaient encore inondées. Johnny s'était assuré que tous les enfants se soient munis d'une lampe torche. Elle se tourna vers eux.
« Bon, tous en file indienne. Restez sur le côté, là où le sol remonte un peu. Ça devrait nous permettre de rester au sec. »
Ils avancèrent jusqu'au bout du quai, puis descendirent près des rails. Violette était entrée vers Van et Shelby, qui voulaient tous les deux lui donner la main. Aussi rangea-t-elle sa lampe et compta sur les leurs pour voir où elle mettait les pieds. Le tunnel filait droit devant eux, sans le moindre virage, avant de disparaître dans le noir. Johnny avait pris la tête.
« Venez, » dit-elle, « on remonte dans 2 arrêts. Ça ne nous prendra pas plus de 15 ou 20 minutes, même sans se presser. »
Sur les parois du tunnel, Violette voyait les traces qu'avaient laissées les eaux de crue. À leur plus haut niveau, elle n'aurait pas eu pied. À présent, seuls les rails étaient inondés et couverts de vases. S'ils restaient sur le côté, ils se mouilleraient à peine les chaussures. Ils dépassèrent Federal Triangle et arrivèrent quelques minutes plus tard à Metro Center. Comme différentes lignes s'y croisaient, c'était une grande station, avec des plateformes, des surplombs et des escalators immobiles. Johnny avançait, suivi par les enfants. Il n'avait croisé personne, ni sur les voies, ni aux arrêts. Violette se demandait pourquoi. Cet endroit semblait pourtant parfait pour se réfugier lorsqu'il faisait mauvais temps et que l'on avait peur des gens au dehors. Mais peut-être qu'elle ne savait pas tout. Elle n'eut pas l'occasion de poser la question à Johnny, car déjà, il grimpait un escalator et arrivait dans la rue, en face d'un magasin Macy's. Ils longèrent plusieurs boutiques et restaurants abandonnés. Ici, plus de file indienne. Ils avançaient de nouveau en groupe. Une fois sur la 10e rue, ils tournèrent devant la grande cathédrale pour se diriger vers le sud. 2 pâtés de maisons plus loin, ils atteignirent le théâtre Ford. Comme n'importe quel autre enfant scolarisé à Washington, Violette le reconnut. Elle y était allée lors d'une sortie scolaire. De l'autre côté de la rue se trouvait la maison où était mort Abraham Lincoln après que...
« Saïd ?»
l'appela-t-elle.
« C'est quoi le nom de l'assassin de Lincoln ?»«
John Wilkes Booth !» répondit-il du tac au tac.
Puis son visage s'illumina lorsqu'il comprit où il se trouvait.
« Oh, on est juste à côté du musée de l'espionnage !»
s'exclama-t-il.
« On peut y aller ?»«
Peut-être une prochaine fois !» dit Johnny.
Elle les mena près d'une porte de fortune installée entre le théâtre et le grand bâtiment du coin de la rue, un bar tape à l'œil, surmonté de plusieurs étages d'habitation. 2 hommes imposants et armés gardaient cette entrée. Johnny les salua de la tête, et ils firent de même.
« Thomas, » fit-elle à l'un d'eux, « les voilà. »
Violette entendit du bruit au-dessus d'eux et leva les yeux. Sous cet angle, elle ne voyait pas grand-chose, mais il y avait apparemment des tas de gens sur le toit de l'immeuble, et encore plus sur celui du théâtre.
« Ouais, » répondit-il, « la JTF nous a dit que vous risqueriez de passer. Mais je pensais qu'on en discuterait d'abord, pas que vous vous pointeriez directement avec une bande de gosses. »«
L'heure n'est plus vraiment aux discussions, Thomas, » s'expliqua-t-elle. « Au train où vont les choses, je crois que c'est aujourd'hui ou jamais. »
Il n'arrivait pas à la regarder dans les yeux. Et Violette voyait bien qu'il faisait tout son possible pour ne pas poser le regard sur elle et ses amis.
« Eh bien, » bredouilla-t-il, « c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en débattre. »«
Nous avons tout arrangé avec la JTF, »
insista-t-elle.
« Ils nous ont certifié que vous étiez d'accord. »«
Je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté, » rétorqua-t-il en trouvant enfin le courage de la fixer. Mais ici, on n'en a pas parlé.
Ça tombe bien. Nous sommes là, justement. J'ai amené les enfants. Dites-moi quoi faire maintenant.
Écoutez, quand la JTF a soulevé l'idée, elle nous semblait bonne, mais ça ne va pas le faire. On a déjà trop de monde, et pas assez de place. Alors si on commence à en accepter davantage, se justifia-t-il en secouant la tête. Et puis, il paraît que vous avez reçu la visite de Sébastien et de sa bande. Vous savez qui ils représentent. Ces gars-là n'ont pas peur de tuer pour prouver leur supériorité. Si vous vous les mettez à dos et qu'on héberge des gens à vous, de quoi ça aura l'air ?
Enfin, il s'agit d'enfants ! S'exclama Juni.
Violette comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple promenade. La vieille femme ne les avait pas simplement emmenés rencontrer d'autres personnes. Elle leur cherchait un nouveau foyer. Et Thomas leur fermait sa porte.
« Non, Juni, non !»
la supplia Shelby. Elle avait les larmes aux yeux. Violette et Amelia se précipitèrent près d'elle.
« Tout va bien !»
la rassura cette dernière.
« On restera ensemble, tout ira bien !»
Juni s'accroupit, et ils se regroupèrent autour d'elle, cherchant son contact. Ils savaient bien qu'ils étaient orphelins, qu'ils n'avaient plus vraiment de parents, à l'exception d'Ivan et d'Amelia, dont le père pouvait être n'importe où. Alors, à leurs yeux, Juni était ce qui se rapprochait le plus d'une mère. Pourquoi voulait-elle se séparer d'eux ?
« Écoutez, leur dit-elle, seulement jusqu'à ce que le problème entre la JTF et les tatoués soit résolu.
Mais, et si... »
Tous se tournèrent vers Noah, qui ne parvint pas à finir sa question. Violette était néanmoins certaine de savoir ce qu'il allait dire.
« Et si vous vous faites tuer, et si on ne peut plus jamais revenir ?»
Elle se demandait la même chose.
« Juni, commença Thomas, écoutez, rentrez chez vous. Pendant ce temps, on va voir ce qu'on peut faire. Mais recueillir cet enfant, non, ce n'est pas possible. Pas pour l'instant. »
« Alors vous en avez discuté, oui ou non ? Je crois que vous l'avez fait, que vous avez décidé de refuser, et que vous n'avez pas le cran de me le dire en face. »
Entouré des enfants, Juni ne se laissait pas faire et mettait Thomas au défi de les éconduire. Les adultes sous-estimaient les capacités de compréhension des enfants, mais ceux-ci étaient loin de se laisser berner par le quart des mascarades auxquelles ils étaient soumis. Violette regardait ces deux-là se parler, et elle était certaine de deux choses. D'abord, que Juni pensait devoir éloigner les petits du château, car quelque chose de terrible allait se produire. Ensuite, que Thomas ne les accepterait pas. Jamais.
« Écoutez, Juni, répondit-il, on essaie juste de survivre en attendant que tout s'arrange.
« Mais nous aussi, rétorqua-t-elle, à une différence près. Nous, nous sommes en ligne de mire. »
Cela ne lui ressemblait pas, de laisser échapper ce genre de choses devant les enfants. Violette avait devant elle une autre Juni, terrifiée, qui tentait désespérément de sauver ce qui pouvait l'être.
« Très bien, se dit la jeune fille. Si eux ne peuvent pas nous protéger, on devra s'en charger nous-mêmes. »
Elle ignorait comment et ce que cela impliquerait, mais cette conversation lui montrait que dans un avenir très proche, les autres orphelins et elle-même risquaient d'avoir à se débrouiller seuls. Il fallait qu'ils le sachent et qu'ils s'y préparent.
« Tenez le coup encore une semaine !» essaya Thomas. « Voyez comment ça se passe, et on en reparlera. »
Cela mit un terme à la conversation. Pour Juni et les enfants, c'était clair. Ils ne trouveraient aucun soutien au théâtre Ford.
« Encore une semaine !» soupira-t-elle d'une voix chargée de mépris. « Pourquoi pas un an ?»
Elle tourna les talons sans écouter ce que Thomas lui avait peut-être répondu et ramena les enfants au Metro Center. Dans les tunnels du retour, la bande était plutôt abattue. Soudain, alors qu'il rasait le mur de la voie inondée près de la station Smithsonian, Ivan lança.
« Tu voulais qu'on parte ?»
Juni s'arrêta et se tourna vers lui.
« Non, » dit-elle. « Bien sûr que non. Je préférerais vous avoir près de moi. Mince, je préférerais que vous soyez tous avec vos parents, tout comme j'aimerais être avec mes propres enfants. Mais c'est impossible. » Pour vous comme pour moi. Et dans une semaine, on ne sera peut-être plus là, nous non plus. L'avenir nous le dira. J'essaie seulement de vous protéger. Hier encore,
Je pensais que la meilleure solution, c'était de vous garder au château, mais je n'en suis plus si sûr. Enfin, ça n'a plus d'importance. Nous allons rester à la maison et nous affronterons la situation, quoi qu'il arrive. Tous ensemble. »
Elle se dirigea vers les escaliers qui remontaient sur la rue. Violette se souvint des airs de sortie scolaire qu'avait eu leur promenade au début. Les choses avaient finalement pris une tournure bien différente. Ils retrouvèrent les rayons du soleil sur Independence Avenue.
« Nous allons tenir le coup ici. Voilà !»
affirma Juni, tandis qu'il descendait la rue et que le château se profilait non loin de là. Elle semblait anéantie, ce qui inquiéta Violette bien plus que tout ce qu'elle avait pu voir depuis la mort de ses parents.
« Il n'y a rien d'autre à dire !»
Comme cela venait d'elle, ils la crurent, et personne ne pipa mot du reste du trajet. Mais la jeune fille savait qu'il restait au contraire beaucoup à dire. Elle avait le sentiment que quelque chose d'horrible se préparait et que les adultes se savaient incapables de l'empêcher. Ce qui signifiait que ses amis et elle allaient devoir trouver une solution par eux-mêmes.